beaucoup et à demain.
Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Les jours fériés, ça coûte combien à l'économie française? On va voir s'il serait pertinent d'en supprimer certains. Il y a du captage de CO2 dans l'air. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et puis la patronne de Paris La Défense Arena nous dévoile quelques secrets du show de la méga star Taylor Swift ce soir en concert dans la salle géante. C'est un sujet qui revient chaque année pendant les ponts du mois de mai, mais cette année 2024 est vraiment exemplaire avec un 8 mai collé au jeudi de l'Ascension. Bonjour Sylvain Bersinger.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Asterès, alors on va poser la question qui fâche. Y a-t-il trop de jours fériés en France ?
Alors, la question du nombre de jours fériés, c'est une question de l'arbitrage entre le travail et le temps libre. Donc, si on veut maximiser la croissance, la production, les revenus, eh bien sûr qu'il faut diminuer les nombres de jours fériés, supprimer plusieurs jours fériés pour qu'il y ait plus de travail, plus de production, donc plus de croissance, plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est difficile de répondre est-ce qu'il y a trop de jours fériés, puisque les Français arbitrent entre le nombre de jours fériés, le nombre de travail et d'activités de loisirs, de temps libre. Donc, c'est un arbitrage à faire, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait moins de jours fériés, il y aurait plus d'activité économique et plus de pouvoir d'achat pour les Français.
Ouais, les jours fériés liés à des fêtes religieuses, par exemple, est-ce qu'ils ont encore lieu d'être ? Enfin, j'appelle qu'il y a Noël, le lundi de Pâques, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint.
Ben, c'est vrai que les jours fériés qui sont liés à une fête religieuse, dans un pays voilà, qui met en avant la laïcité et qui sont des fêtes religieuses chrétiennes, peuvent être effectivement contestés, puisqu'on pourrait trouver soit des jours fériés associés à d'autres religions, soit des jours fériés laïques. On pense par exemple le 14 juillet qui n'est pas associé à une religion. Donc oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une réflexion sur un changement de certains jours fériés, par exemple travailler à Pâques et puis trouver d'autres jours fériés, je ne sais pas, mettons le 18 juin en mémoire de l'appel du général de Gaulle, par exemple. Hein. Mais oui, je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir, mais là, c'est plus une réflexion sociétale qu'économique.
Vous parliez de pouvoir d'achat, est-ce qu'on a une idée de l'impact macroéconomique de tous ces jours fériés ?
Alors, quand il y a un pont, ça veut dire que les gens posent, par exemple, un RTT ou un congé entre un jour férié et un week-end pour partir en week-end prolongé. L'impact économique, il n'est pas déterminant, puisque si les gens posent un pont pour partir en congé à ce moment-là, ça veut dire que le congé qu'ils ont posé, ils ne le poseront pas à un autre moment. Donc, ça fait qu'il y a une concentration de l'activité touristique sur le moment des ponts, mais ça ne change pas fondamentalement la dynamique économique ou la répartition sectorielle de l'économie française sur l'ensemble de l'année.
On pourrait envisager d'en supprimer ou pas alors ?
Alors, bien sûr, on peut envisager d'en supprimer. Hein. Après la canicule de 2003, il y avait eu toute une réflexion sur la suppression d'un jour férié pour avoir plus de recettes pour s'occuper des personnes âgées. Donc, le nombre de jours fériés n'est pas figé, n'est pas gravé dans le marbre. Il peut évoluer selon des décisions politiques. Donc, oui, il est tout à fait possible de supprimer des jours fériés, ce qui ferait un peu plus d'activité économique, un peu plus de revenus, de recettes fiscales.
Et donc, je vous repose la question. Est-ce qu'on peut refaire ce qu'on a fait pour le lundi de Pentecôte, créer un jour de solidarité qui serait travaillé, mais pour une cause ?
Bien sûr, on pourrait le refaire. Il y a eu des réflexions dans certains pays scandinaves de faire un peu la même chose, par exemple, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Donc, on pourrait décider que tel ou tel jour férié serait désormais travaillé pour augmenter les recettes, par exemple, sur les questions climatiques, des questions d'aide au développement, de lutte contre la pauvreté. Donc, bien sûr, les jours fériés, c'est une question économique, mais c'est beaucoup plus largement une question politique et sociétale.
Effectivement, Sylvain Bersinger, merci beaucoup, chef économiste chez Asterès et invité du journal de l'économie de Radio Classique. Alors, il y a donc beaucoup de jours fériés en France, mais allez savoir pourquoi les jours où la bourse est fermée ne correspondent pas. Ainsi, le vendredi saint, à la veille du week-end de Pâques, eh bien, il n'y a pas de cotation sur les marchés, alors que ce n'est pas un jour férié. En revanche, aujourd'hui, jour férié, c'est l'Ascension, les marchés ouvrent tout comme ils étaient ouverts hier, 8 mai, jour de l'armistice 45. Le CAC 40 a gagné 0,69% à 8131 points. Le Dow Jones a gagné 1,5%. Le Nasdaq a reculé de 0,18%. À Tokyo, le Nikkei progresse en ce moment de 0,20%. L'euro est à 1,0747 et le pétrole, le baril de Brent, est juste sous les 84$. Alstom, hier, a rassuré les marchés avec la confirmation de son augmentation de capital. Le titre a gagné 9%. Ça s'appelle Mammoth, comme Mammouth, hein, et c'est la plus grande usine de captage de CO2 dans l'air inaugurée aujourd'hui par la start-up Climeworks en Islande. Le principe est d'aspirer directement dans l'atmosphère une partie des 36 milliards de tonnes de dioxyde de carbone émises chaque année pour le stocker et éventuellement le réutiliser. Bonjour Zoé Palier.
Bonjour.
Expliquez-nous comment cela fonctionne.
Le principe est assez simple, on capture le carbone grâce à des ventilateurs géants. L'air passe par un filtre recouvert de produits chimiques qui piègent les molécules de CO2. Elles seront ensuite stockées près de l'usine islandaise, dans du basalte, une roche très poreuse qui fonctionne comme une éponge. 36 000 tonnes de carbone seront ainsi retirées chaque année de l'atmosphère grâce à ces ventilateurs. On a fait le calcul, cela correspond en moyenne à l'empreinte carbone annuelle de 3 000 Français et à environ 30 secondes d'émissions de CO2 dans le monde.
Oui, c'est donc assez marginal encore, hein, quelques usines. Mais est-ce reproductible à plus grande échelle dans le monde, Zoé ?
Il y a plusieurs projets en cours, aux États-Unis notamment. Le gouvernement américain a débloqué plus $1 milliard pour la construction de 2 usines, l'une en Louisiane, l'autre au Texas, avec comme objectif cette fois de capturer plusieurs mégatonnes de CO2 d'ici 2030. Mais les conditions sont moins favorables qu'en Islande. Là-bas, l'usine est alimentée uniquement par géothermie, une énergie décarbonée, renouvelable et moins chère. C'est plus délicat quand il faut utiliser des combustibles fossiles pour faire tourner les ventilateurs. Et puis, le modèle économique reste fragile. Capturer une seule tonne de CO2 dans l'air coûte entre 600 et 1000 dollars, d'après une note du Forum économique mondial. D'ici 2050, ce coût pourrait chuter à 300 dollars la tonne, mais cela restera toujours beaucoup plus cher que d'autres techniques de captage du carbone. La reforestation, par exemple, ou le fait de piéger les molécules de CO2 dans la fumée issue des usines polluantes.
Explication très claire signée Zoé Pallier. Merci Zoé. À chaque jour férié ou départ en vacances, la commune de Valence, dans la Drôme, est envahie d'automobilistes. La raison, ce sont les applications de GPS qui conseillent, dès que l'autoroute s'encombre, des petites routes. Des chercheurs américains ont appelé ça l'effet Waze, cette appli de GPS. Plusieurs élus locaux s'en plaignent, Aulnay-sous-Bois, Cornebarieux en Haute-Garonne ou encore Valence. Donc, son maire, Nicolas Dragon, a même décidé carrément d'installer des barrières pour bloquer l'accès à ces itinéraires bis.
On a vu débarquer des milliers de véhicules sur ces chemins ruraux sur lesquels on ne peut pas se croiser, qui sont des chemins ruraux utilisés par les agriculteurs, par les promeneurs, par les vélos, pas calibrés pour recevoir les départs en vacances de tout l'est du pays. Et on voit arriver jusqu'à des camions 16 tonnes par choc contre par choc. On a bien essayé de contacter les pourvoyeurs de GPS, mais on n'a pas eu de réponse. Puis quand on a fini à en avoir une, ça a été de nous dire, mais le problème, c'est que ça n'est pas nous qui indiquons les chemins, ce sont ceux qui les utilisent. C'est des contraintes tellement fortes et des conséquences sur la sécurité, l'environnement et l'hygiène qu'on a pris la décision de fermer. On a donné les clés à quelques agriculteurs qui ont besoin de passer avec leur tracteur.
La répression des fraudes renforce ses contrôles en prévision des Jeux Olympiques. Elle mènera par exemple 10 000 interventions cette année dans les hôtels, cafés et restaurants pour vérifier que le service rendu est conforme aux normes. Plus globalement, la DGCCRF veut assurer la sécurité et les droits des touristes qui consommeront en masse dans notre pays cet été. Marie Sudruy est porte-parole de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Par exemple, pour un hôtel, on va s'assurer que lorsqu'il est mentionné un nombre d'étoiles, cela correspond bien aux critères d'affichage de ces étoiles. Et puis donc, en matière de sécurité, nous avons ciblé les produits les plus plébiscités par les touristes, par exemple les adaptateurs électriques, le maquillage, les produits dérivés vendus pendant cette période. Tout secteur confondu, nous avons un peu plus de 50% d'anomalies, mais une grande proportion reste mineure. Ça peut être un affichage partiel du prix, des conditions générales de vente qui ne précisent pas toutes les informations nécessaires à la bonne information du consommateur.
Et puis on termine avec la plus grande star mondiale du moment, et je ne parle pas de David Abiker qui entre sur la pointe des pieds dans le studio de Radio Classique. Elle va faire un peu plus de bruit, la chanteuse américaine Taylor Swift qui débute ce soir une série de concerts européens par 4 dates à Paris. Bathilde Renzetti, vice-présidente de Paris La Défense Arena, la salle de 45 000 places qui accueille l'événement, a dévoilé à Radio Classique quelques détails du concert. Elle et son équipe sont carrément allées voir un concert de Taylor Swift à Tokyo il y a plusieurs mois pour préparer au mieux le passage parisien de la chanteuse.
On va avoir quand même des surprises puisque, comme vous le savez, elle a sorti un album le 19 avril.
Ah oui.
Maintenant sur le show, je le connais puisque c'est 3h30 de show. Hein. C'est un vrai show à l'américaine. Elle est assez extraordinaire sur scène. Donc je pense que les spectateurs vont être ravis. Elle a un show qui est très digital avec beaucoup d'écrans LED,
oui,
avec beaucoup de vidéos, de suspension, on a une espèce de coquille Saint-Jacques qui vole, etc. Enfin bon, on va avoir voilà des surprises avec ce nouvel album et donc des chansons qu'on n'a pas vues. Et qu'on n'a pas vu interpréter avec toutes ces danses, ces tenues extravagantes et paillettes, très country. Voilà, on a l'impression d'être à Nashville souvent. C'est assez incroyable.
Ce sera Nashville ce soir à La Défense, qui l'eût cru. Shake It Off, le tube de Taylor Swift ce soir en concert, et demain, et après-demain, et après-après-demain. Et les fans sont ravis évidemment, comme David Abiker.